Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Christophe Baratier, rebonjour. Vous êtes donc notre invité à deux jours de la sortie de L'Outsider, votre nouveau film. Nous allons longuement en parler avec Stéphane Boutsock. Et je vous précise que Steven Bellery, lui, nous fera découvrir la toute nouvelle chanson de Patricia Cass. Son premier titre inédit depuis 13 ans. On sait que la musique est aussi un art qui vous passionne. Alors justement, après Les Choristes, après Faubourg 36, mais aussi La Guerre des Boutons, est-ce que je peux me permettre de vous dire qu'avec L'Outsider, sans doute, par habitude des étiquettes, je ne vous imaginais pas vous intéresser à un thriller financier?
Moi non plus. Et vous faites bien, puisque vous étiez exactement comme je l'étais. Ça n'a jamais été pour moi une volonté, parce que je ne connaissais l'affaire Kerviel il y a 3 ans que par les gros titres, et je n'avais pas vraiment d'opinion sur la question. Mm-hmm. Et il a fallu que je le rencontre par l'intermédiaire d'un ami qui est venu dîner un petit peu avec lui par surprise chez moi. Et j'étais très embarrassé parce que je ne savais pas du tout quoi lui dire. Et tout à coup, je sais pas, à minuit, il était plutôt sympathique et j'ai dit « Alors Jérôme, que vivez-vous depuis 3 ans ?» Il avait donc déjà été condamné à 3 ans et là, tout à coup, on a une discussion qui m'a totalement passionné jusqu'à 5h du matin et je me suis dit « Attendez, alors l'homme que j'ai en face de moi, là, avec qui je parle depuis 5h et qui est chez moi, et donc c'est lui le plus grand fraudeur de toute l'histoire de la finance ?» J'ai dit « Non, ça colle pas. Il faut chercher derrière. » Et c'est donc cette énigme, en fait, que j'ai cherché à décrypter et à savoir comment le drame s'est mis en place.
Alors, L'Outsider est typiquement un film qui répond à toutes ces questions que nous nous posons, en tout cas, qui nous permet de découvrir l'envers du décor, de nous forger aussi un avis, parfois des convictions. Stéphane Boutsock, replacez-nous le décor, s'il vous plaît.
L'ascension, l'apogée, la chute de Jérôme Kerviel, qui restera, alors selon qu'on l'accuse ou qu'on le défende, comme le symbole, l'artisan ou le fusible de la dérive financière de nos banques. Le film suit son parcours de l'an 2000 à 2008 à coups de paris financiers, de montage plus ou moins clair et de jonglage avec nos milliards, en gagnant un pour en perdre 5 au final. L'atout du film de Christophe, basé sur le livre de Kerviel, L'engrenage, mémoire d'un trader, c'est de n'en faire ni un héros, ni une victime, mais juste de montrer un jeune homme qui va se prendre au jeu de la finance, au cœur d'une banque, la Société Générale, aux côtés de collègues formés, engagés, motivés pour une chose, gagner le plus d'argent possible, sans forcément être très très regardant sur les méthodes. Extrait.
Je spécule sur la hausse ou la baisse du marché. Si je pense qu'il va monter, j'achète. Si je pense qu'il part à la cave, je vends. Ça s'appelle un spiel.
Attends, t'es sûr de ton truc, là?
Non, c'est ça qui est bon. Plus ça monte, plus je les revends cher, plus je me fais du fric.
Oh la vache, ça monte, là. Attends, t'as vu une info?
Non, tu dis du feeling.
Non.
Si.
Quand ça continue 25, 30, qu'est-ce que je fais? Je coupe, là?
Ah bah non, pas encore, là, tes petits bras.
Attends, t'es sûr? Parce que si ça se retourne, c'est à quoi se faire défoncer la tête, là?
Oui, non, merci, je sais. Voilà, regarde, ça rebondit.
50, ça va vite. 55, 7, 80 000, les gars.
Voilà, coupe.
Non, ça s'arrache.
Arrête tes conneries,
coupe.
Et coupe,
c'est bon, les gars.
Yes. Arthur Dupont, Campin, formidable Jérôme Kerviel, aidé par une sorte de mauvais génie qui sera aussi par moments son Jiminy Cricket, incarné par François-Xavier Demaison. On a souvent dit qu'on ne savait pas ou qu'on ne voulait pas en France filmer la banque, la finance, le monde de l'argent, à l'inverse d'Hollywood où ce style de thriller, depuis Wall Street d'Oliver Stone, est un genre vraiment à part entière. Eh ben, on avait tort. Fallait juste avoir l'idée, l'histoire, le talent et puis autre chose, Christophe. L'envie. Cette affaire Kerviel, elle est devenue une évidence pour vous, c'est-à-dire le sujet de votre 4e long métrage. À quel moment? Il y a ce dîner, mais à un moment, il faut y aller, il faut passer au-delà.
Oui, quand j'ai commencé à décrypter, il m'a fallu quand même, j'y connaissais rien, il m'a fallu me faire une formation accélérée, non pas tellement de la finance en général, mais du trading.
Le film, oui. Même en n'étant pas du tout dans
alors,
le film.
Alors, il m'a fallu comprendre tout pour le restituer de façon dramatisée, ouais, afin de s'adresser à celui que j'étais 2 ans auparavant. Et donc, en même temps, sans tricher sur le jargon, c'est-à-dire que si jamais on simplifie tout le vocabulaire pour qu'on comprenne, le public certes comprend, mais ils se disent c'est pas normal, ouais, les gens parlent pas comme, ouais, ça, faut rester sérieux. En revanche, je n'allais pas expliquer ce qu'étaient exactement les produits, les turbo warrants, ça j'y comprenais rien, mais c'était pas ça le problème, c'était de comprendre quel est l'enjeu. En fait, en réalité, il faut savoir si lui, tout d'un coup, si ça se casse la figure et qu'il est content, il faut savoir quelle est sa situation. Mais évidemment, le plus impressionnant était que quand je cherchais, il y avait une chose qui était, quelle pouvait bien être les motivations de Jérôme Kerviel, parce qu'il apparaît comme un employé absolument modèle, absolument pas intéressé par l'argent. Jérôme est le moins matérialiste des personnes que je connaisse. Il n'a pas le permis de conduire, on se foutait de lui parce qu'il arrive avec sa carte Navigo à la salle. Pas de voiture, il aime bien le restaurant mais sans plus, pas de drogue, etc. Donc je veux dire, par quoi est-on motivé? Surtout que, rappelons-le, il y a une différence énorme avec beaucoup d'autres affaires du genre, comme l'affaire Madoff, c'est qu'il n'a pas détourné un centime d'euro à titre personnel. Ce qui d'ailleurs a fait dire à Daniel Bouton le lendemain, c'est ça le plus extraordinaire. Et finalement, c'est ce plus extraordinaire. Donc j'ai conçu le film comme un thriller, De façon détachée, je dois dire, enfin suffisamment détachée de Jérôme Kerviel pour me dire « c'est toi qui m'intéresse ». Mais attention, je ne suis pas là pour prendre sous la dictée. Je ne suis pas là pour prendre une version ou une autre. J'ai commencé à tiquer un peu quand j'ai voulu évidemment contre-enquêter de façon pas comme un journaliste, mais comme un cinéaste qui voulait faire sérieusement les choses avec les anciens collègues. Parce qu'ils avaient tous dit « nous a volé, nous a abusé ». Voilà, très bien, je lui demandais « comment il a fait pour vous abuser ?»« Ah, j'ai pas le droit de le dire bah, ». Attendez, quand on a été volé, on a normalement le droit de le dire, c'est pas un mal. « Non, mais je peux plus en parler. » Ah, attendez, mais je veux faire un film à charge contre lui, admettons. Alors dites-moi tous ces défauts. Non. Alors donc j'ai compris là qu'il y avait eu des accords confidentiels pour ne plus en parler. C'est la première chose qui va. Et donc je pense avoir trouvé, je pense sincèrement avoir trouvé la zone grise dans laquelle finalement, que les gens ne veulent pas entendre parce qu'ils veulent des innocents, des coupables, un innocent, un coupable. On ne veut pas être au milieu. Et il y a une certaine part de milieu qui fait que la version de la Société Générale est une fable qui, selon moi, ne tient pas la route. En revanche, sur certains comités de soutien, il y a un petit peu tout. La banque est au courant. Mais la banque, c'est qui ? C'est pas 3000 personnes au courant. Mais forcément, et c'est sous une forme de thriller, l'enquête que j'ai révélée, je pense qu'elle n'est pas si bête que ça.
Alors, vous nous avez expliqué comment s'était déroulé votre première rencontre. En fait, un ami, sans vous prévenir, fait débouler Jérôme Kerviel chez vous. Mais de là à décider de rentrer dans cet univers qui n'était pas le vôtre, on l'évoquait avec Stéphane, et à décider d'aller dans cette dramaturgie très particulière, enfin, vous avez passé facilement le cap psychologique.
Ah, mais c'est-à-dire que ça m'a, je vais vous dire, les choristes qui racontaient mon enfance, d'une certaine façon, m'a obsédé. Et cette affaire Kerviel, j'ai même pas pensé si c'était mon terrain de prédilection ou pas. Je me suis engagé, mais avec la même obsession. Je ne pensais qu'à ça. Et ça rend fou, hein, parfois.
Le monde des traders tel que vous le montrez tient à la fois de la salle de garde et de l'université de médecine. Hein. On parle fort, on parle macho, on se bizute. Ça vous a surpris quand vous avez découvert cet univers ?
Oui, c'est même au-delà de ce que... C'est
parfois dire qu'il y a une certaine vulgarité.
Ah oui, c'est une grossièreté, en
tout
cas.
Voilà.
Oui, c'est une
grossièreté.
Ça passe tout à coup de termes extrêmement techniques, incompréhensibles, à des mots tout d'un coup qui sont des troisième mi-temps de rugby.
Oui, voilà. C'est ça.
Mais j'ai remarqué que c'est assez souvent le cas dans les métiers de haute tension. Si je prends les flics ou les militaires, souvent entre eux, on n'enregistre pas, mais il y a souvent ce type de dialogue.
On l'a dit, le film est basé en partie sur le bouquin de Kerviel. Il s'appelle Kerviel dans le film. Vous filmez le logo de la Société Générale. C'est la tour à la Défense.
J'ai filmé les tours, oui.
Il n'y a pas eu de pression. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, moi aussi, j'étais stupéfait.
Les avocats de la banque vous ont pas appelé.
Ah si. Si, ils m'ont même invité au tribunal pour un changement de titre, en fait. Enfin, j'avais reçu des courriers comme quoi nous prêterons la plus grande attention à tout ce que vous allez dire. Bon, ça, évidemment, c'est la moindre des choses. Et puis, j'avais appelé le film, au départ, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe qui, en soi, ne peut pas leur appartenir parce que c'est une notion qui vient du XVIIIe siècle, mais il était bien évident que développons ensemble l'esprit d'équipe. Et donc, là, j'ai déclaré, écoutez, très bien, mon film ne repose pas sur cette ironie, je n'irai pas au tribunal, tout simplement parce que sans ça, j'aurais pu plaider, hein, et peut-être gagner, mais il y aurait eu un délibéré au mois de juin, ce qui m'aurait interdit de faire le titre. Mais là, je sais, j'ai lu hier branle-bas de combat à la Société Générale avant la sortie du film, mais je crois qu'ils sont un tout petit peu déçus parce qu'ils pensaient peut-être que j'allais faire un brûlot attaquant ad nominem des gens à la Générale et cette banque en particulier, et ça n'est pas le cas.
Alors on va continuer dans un instant cette discussion très intéressante hein, autour du film de Christophe Baratier, L'Outsider, qui sort, je vous le rappelle, mercredi. Mais d'abord Stéphane, nous faisons gagner des places de cinéma à nos auditeurs pour aller le découvrir. Il faut pour cela répondre à votre question.
L'Outsider est-il le troisième ou le quatrième film de Christophe Baratier ?
Réponse au 32-10. Avant de marquer une pause, nos audiences télévisées du week-end et d'hier, hein, grâce à Médiamétrie, chiffres présentés et analysés par Mademoiselle Morini-Bosque.
Eh bien, foot d'abord, foot d'accord, foot encore. Qui a été en tête des audiences vendredi, le match Espagne-Turquie sur M6, quasiment 5 millions de téléspectateurs piquent à 6, 23% du public sur la 6. Le deuxième n'est d'ailleurs pas la chanson de l'année sur TF1, troisième avec moins de 3 300 000 curieux, mais la rediffusion de Candice Renoir sur la 2, 3 400 000 fidèles. Samedi, c'est bien sûr la rencontre Portugal-Autriche qui rafle tout, 5 600 000 fans sur TF1. Pique à 7,7 millions, d'où une baisse d'audience pour Salut les Terriens et On n'est pas couché, le public regardant les analystes des avant et des après-matchs. Quant à hier, eh ben, on remet ça à la hausse, près de 13 500 000 Français sont de nouveau sur M6, voilà. Presque un téléspectateur sur deux, devant Dirty Dancing qui rassemble 10 950 000 de moins sur TF1, c'est-à-dire 2 492 000. Quant à ce soir, je rappelle que le match Slovaquie-Angleterre ne sera ni sur M6, ni sur TF1, mais sur TMC. En direct du stade de Geoffroy Guichard de Saint-Etienne.
11 millions de différence entre les deux chaînes, quand même.
Eh oui.
C'est un record historique.
Record historique pour
Ah oui, c'est un record historique. Incroyable. Allez, on retrouve dans un instant notre invité Christophe Baratier, mais aussi Jean-Alphonse Richard, notre spécialiste police-justice, qui connaît, lui, sur le bout des doigts, le dossier Kerviel Société Générale.
RTL 9h11.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h13, merci beaucoup d'écouter RTL. L'Outsider, hein, le nouveau film de Christophe Baratier, sort au cinéma après-demain, mercredi. Je vous le rappelle, nous avons été très intéressés et touchés par ce thriller à la fois financier et humain qui revient sur l'affaire Kerviel, Société Générale. Alors Stéphane Boutsock, on dit un mot des acteurs du film.
Alors c'est la bonne idée du film, ne pas confier le rôle de Kerviel à une star, mais à un acteur formidable qu'on a déjà vu dans des films comme RTT, Bus Palladium ou Les Saveurs du Palais. Je veux parler d'Arthur Dupont. Comme le vrai Jérôme Kerviel, il a le bagou, la belle gueule, l'énergie pour camper le personnage. Je l'ai rencontré, Christophe, et je suis revenu avec lui sur l'autre atout de votre film, le fait que Kerviel y soit dépeint ni comme un escroc, ni comme une victime.
C'est cette zone d'ombre que moi j'aimais bien dans cette histoire-là et que le personnage traverse. Et c'est ce que moi j'ai senti à la lecture du scénario, que les responsabilités étaient partagées. Et il n'allège pas du tout Jérôme Kerviel. Hein. Il n'est pas du tout exonéré de charges et d'une certaine culpabilité. Il a fait des choix qui étaient catastrophiques. Personne ne lui a demandé de faire ces choix-là, de faire des faux, etc. Ce qui lui a été reproché, ce qui est vrai. Maintenant, il y a tout un système et un environnement, comme les commerciaux dans toutes les boîtes, qui sont poussés à faire du chiffre et à être meilleur que son voisin. Et le chiffre pousse à un moment à peut-être l'inconscience et l'irresponsabilité. Moi, je pense que c'est des éléments qui sont à l'intérieur de cette histoire-là.
Alors, dans ce studio également, avec nous, Jean-Alphonse Richard. Bonjour à vous, Jean-Alphonse.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service police-justice de la rédaction d'RTL et vous connaissez par cœur hein, cette affaire. Ma question est toute simple, Jean-Alphonse. Le film L'Outsider est-il fidèle, selon vous, au dossier que vous avez couvert de si nombreuses fois depuis 2008?
Alors écoutez, c'est pas parce que j'ai Christophe Baratier en face de moi que je vais être gentil. Ça va, je vais changer. Oui, effectivement, non, c'est un très bon film. Je l'ai vu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. C'est très bien mené. C'est un film qui est très très fidèle au dossier, qui a suivi vraiment les éléments qu'on a pu avoir devant les divers tribunaux, devant au cours des deux procès, même troisième qui est toujours en cours en ce moment. Donc ça, c'est très réussi. Un petit regret, vous n'employez jamais le terme turbo warrants ou futur.
Oui.
Ça m'a beaucoup déçu.
Oui, j'imagine, oui.
Je sais toujours pas ce que ça veut dire.
Donc, moi non plus, le public ne saura jamais.
Mais au-delà de ça, Kerviel, c'est un personnage... Bon, moi, je l'ai beaucoup fréquenté, je le vois toujours de temps en temps. On avait ici à RTL la première interview, hein, la grande interview de Jérôme Kerviel sur ici, dans ses studios. C'est quelqu'un qui est effectivement très, très secret, très difficile à décrypter. Ça, c'est la partie un peu connue du personnage. Mais votre mérite, le mérite du film, c'est effectivement de revenir en arrière, d'avoir les premières années Kerviel, là où tout s'est joué, où tout s'est décidé. Et là, et c'est là, à partir de là, qu'on comprend vraiment le personnage, sa fondation, comment tout cela est arrivé. Alors, c'est vrai que le mérite de ce film, c'est de nous montrer cet autre Kerviel, celui des années avant le scandale.
Le Jérôme avant Kerviel.
Le Jérôme avant Kerviel, et c'est les années qui expliquent tout. Là-dessus, vous l'avez rencontré, Jérôme Kerviel, il est très discret, hein, il est très secret, il n'en parle pas beaucoup, notamment ses histoires familiales et tout, mais qui explique beaucoup, beaucoup de choses dans sa démarche, et finalement dans cette espèce de culpabilité qu'il porte, hein, et qu'il porte en lui de manière très, très permanente. Alors c'est vraiment un huis clos, là j'ai beaucoup aimé ça, moi j'avais un peu peur, je vous avoue, quand la salle des marchés, tout ça, c'est quelque chose qui est fermé, qu'on connaît pas, avec un langage qui est confisqué. Et là,
on
ça,
a c'est... presque envie de jouer avec eux. Hein.
Oui, c'est très réussi. On est dedans, on est emporté. Et finalement, c'est un monde où la loi habituelle ne s'applique pas, où on dicte finalement ses propres lois. On est une espèce de secte, hein, faut bien le dire, un truc extrêmement fermé. C'est la secte de l'argent, l'argent à tout prix. Finalement, le véritable héros du film, c'est l'argent. Hein. C'est pas, je crois même pas que ce soit Jérôme Kerviel. C'est vraiment l'argent et le système de l'argent qui est décrypté. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Alors c'est vrai qu'on s'ennuie pas du tout, et jusqu'aux scènes finales où là c'est un vrai thriller en l'occurrence. Parce que il y a quand même un truc extraordinaire dans ce film, c'est que on connaît la fin. On connaît la fin.
Comme Titanic. Ah, oui.
C'est presque comme un... c'est voilà. Cool. On connaît la fin, on sait le Titanic, c'est fini. Jérôme Kerviel, on ne sait pas tout à fait d'ailleurs. Hein. Il y a encore un petit suspense en l'air. Là. Mais en tout cas, on connaît la fin Kerviel, on connaît le désastre de cette histoire à divers niveaux. Et là, vous réussissez quand même le tour de force où on va se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et comment on va en sortir? Et notamment, les dernières scènes sont extraordinaires. Bon, je ne vais pas les raconter, non. Là, parce qu'il faut que vraiment le public y aille. La scène de l'explication finale, qui est connue, qui est dans la presse, qui a été évoquée au procès. Eh ben, je peux vous dire que moi, j'étais devant et je me disais, au fait, mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Et comment ça va se passer? Et il y a un déclic, quand on fait rasseoir Kerviel, tout s'effondre. Et finalement, la tour de la Société Générale s'effondre. Alors voilà, ça c'est pour le bouquet de fleurs.
Je peux vous demander une chose, vous pourriez m'accompagner dans la promotion
Mais avec plaisir. Ça
c'est fait. Mais
j'en parle très sincèrement. J'ai pas d'action dans la production ni quoi que ce soit.
Mais il y avait le mai
Juste un petit... Oui, alors, bouquet de roses. Petite épine, moi j'aime pas du tout votre titre. L'outsider, pour moi c'est l'insider. S'il y a bien un insider, c'est Jérôme Kerviel. Et puis attendez, deux initiales extraordinaires. JK, pourquoi pas JK? JK, deux initiales extraordinaires. Succès assuré aux États-Unis avec ça.
Oui. Qu'est-ce que je dois répondre d'abord? Je vous rejoins tout à fait. Je trouve votre analyse non seulement juste, mais brillante. Il y a une chose qui me fait plaisir sans doute, parce que je ne voulais pas, moi, surligner ma position et mon opinion sur la finance. Tout simplement parce que tout le monde s'en fout, ils auraient bien raison. Mais c'est que si tout le monde peut en tirer quelque chose, ça crée des discussions vives. Et si finalement l'argent, ou la virtualité de l'argent plutôt, finalement devient le sujet, ce n'est qu'à la fin qu'on s'en rend compte. Parce que ce n'est pas mon propos. Je suis resté sur l'affaire humaine. Et vous l'avez parfaitement décrit.
Alors après cette analyse, on va dire, de l'intérieur, par Jean-Alphonse Richard, je vous propose d'écouter Christophe Baratier. Jérôme Kerviel lui-même, il était récemment l'invité de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir. Voici comment il parlait du projet de votre film.
J'ai vu certaines images, oui, tout à fait. Je n'ai pas participé au tournage. C'est pas un outil de communication, de propagande. Je n'ai pas participé à ce film-là. Voilà, j'ai donné ma confiance à Christophe Baratier, qui ne l'a pas trahi.
Comment a-t-il réagi quand vous lui avez montré le film terminé?
Alors, je vais vous dire, il connaissait à peu près la forme du film, celle que je cherchais, et il savait aussi que je ne voulais pas, même à la limite, si j'avais voulu, par empathie pour lui, le défendre, charger la générale, parce que ça n'aurait pas été crédible. Du coup, je cherchais une vérité psychologique. En revanche, Jérôme a dit une chose. Tu peux rater mon personnage. Il savait que sur les chiffres et tout ça, je me démerderais, mais tu peux rater mon personnage éventuellement. Mais s'il te plaît, ne rate pas mes parents. C'est-à-dire, ne rate pas la réalité. N'en fais pas, je ne suis pas né dans une favela, abandonné par mon père, avec un désir de revanche. Non, mes parents étaient des gens qui m'ont bien élevé. Ce sont des gens parfaitement correct, et je suis l'issue de cette famille qui s'appelle Kerviel, et mon père, quand j'ai entendu le nom de mon père, où on a dit Kerviel terroriste, ça m'a tué. Et voilà, donc par conséquent, là-dessus, il était intraitable. Sur le reste, j'étais sans aucune surveillance, avec vraiment une confiance qu'il m'a donnée, quitte à prendre des risques, mais il les a pris, moi aussi, et ça se passe plutôt bien, parce qu'il a été choqué par le film, quand même, malgré tout. Je ne l'ai pas ménagé dans le film, à la fin, comme vous dites, on voit quand même quelqu'un qui passe de l'autre côté, mais précisément... l'irresponsabilité, parce qu'il devient irresponsable. En droit français, c'est-à-dire quand on n'est pas responsable, on est moins coupable, forcément. Et voilà, donc je ne l'ai pas ménagé. Et puis à la fin, il y avait quelqu'un auprès de lui qui était en pleurs et qui dit « Jérôme, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu ce qui s'est passé. » Alors, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est touché. En tout cas, on n'est peut-être pas amis, on est proches, on verra plus tard, mais ça l'a beaucoup... voilà. Il était très ému.
Christophe Baratier, vous restez avec nous. On va parler musique dans un instant, un sujet qui vous passionne lui aussi. Steven Bellery nous présente ce matin le premier extrait du nouvel album de Patricia Cass. Et L'Outsider sort mercredi.
RTL 9h21. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Baratier, dont le film sort mercredi, et on parle musique maintenant. Pour terminer, Patricia Cass prépare son retour. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
La chanteuse étoile, ce matin, premier extrait de son prochain disque.
Oui, ce sera son 10e album, il sortira cet automne. C'est le premier depuis Sex Fort, paru en 2003. Elle avait enchaîné avec deux disques concept, un hommage au cabaret avec un K comme Cass et un autre à Edith Piaf. Cette fois, Patricia Cass revient à un format plus traditionnel. Le premier single s'intitule « Le jour et l'heure », parole David Verlaine. J'ai rencontré l'artiste et je lui ai demandé de nous présenter cette nouvelle chanson.
C'est le jour et l'heure où dans ta vie tout bascule. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un événement triste qui est donc ou général, donc ou les attentats, mais ça peut aussi être très personnel. Ça peut être la perte de quelqu'un. Très souvent, on se souvient d'où on était, ce qu'on faisait au moment où on l'apprend. Effectivement, c'est un peu référence aux attentats. Malheureusement, les choses difficiles dans la vie, ça te marque, ça te fait grandir, ça t'apprend. Après, on me dit, tout ça, mais pourquoi? Merde, c'est présent, c'est ici, c'est là, on en parle tous les jours. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'exprimer, et quand quelque chose me parle, me touche, j'ai envie de le raconter.
Dans son café rêveuse, un nuage de lait. Puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. J'étais comme le ciel étendu sans nuance. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais le jour et l'heure. Basculer la l'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné.
Le jour et l'heure, premier extrait du prochain album de Patricia Cass. J'ai pu écouter plusieurs autres titres. Le disque s'annonce très vocal, très chic. La chanteuse a choisi un texte sur les femmes battues, un autre sur la langue et les mots, un morceau qui s'appelle « Ma tristesse est n'importe où » qui m'a serré la gorge. Rose, Pierre-Dominique Burgot ou Ben Mazuet seront notamment au crédit. Patricia Cass.
Je voulais un album de variété française élégante, je voulais faire du Cass. J'ai pas envie de me mettre des barrières, des interdits, me dire est-ce que c'est trop triste, est-ce que c'est trop ci, est-ce que c'est trop ça, est-ce que je peux dire ça, est-ce que... J'ai juste envie de me dire, écoute, aie confiance en toi, t'as rien à prouver, vas-y, fais. Franchement, les deux dernières années, j'ai un peu ramé dans, enfin, dans ma vie, dans le sens où à tourner Piaf et tout, c'était difficile. J'avais enchaîné mon livre, j'avais enchaîné le tournage de Assassiné, j'avais enchaîné Piaf, donc il y a beaucoup d'émotions. Et j'étais vraiment crevée et à un moment, c'était trop, quoi. J'avais besoin vraiment de me dire, maintenant, pense à toi, prends du temps pour toi. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je reviens avec un regard différent sur la vie, je crois.
Nouvel album de Patricia Cass cet automne en concert dès le mois de janvier. Elle chantera Salle Pleyel à Paris les 26, 27 et 28 janvier. Puis tournée des Zéniths. Patricia Cass est d'ailleurs la première artiste française à signer avec Live Nation Monde. Elle prépare une tournée mondiale. Puisqu'on parle musique, Christophe Baratier, mon petit doigt me dit que vous travaillez en secret sur un spectacle musical autour des choristes. C'est vrai ou c'est faux?
Ah. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
La bouille qu'il a fait, j'ai compris.
Oui. Non, ben oui. Ça fait longtemps qu'on m'avait demandé de le faire et que je trouvais qu'il fallait se détacher suffisamment de la sortie du film pour pas qu'on me dise ah oui, mais c'est Jean-Baptiste Meunier qui va reprendre le rôle. Bon, évidemment, on me l'a encore demandé. Hein, malgré tout. Oui, Jean-Baptiste, tu reprends son rôle. Bah, non, mais c'est incroyable. Et donc, j'ai fait une adaptation.
Un grand garçon.
Oui, une adaptation où finalement, j'ai aussi non seulement il y aura toutes les chansons qu'on attend, mais également de nouvelles chansons puisque les rôles, même des adultes, deviendront partiellement chantants. Donc il s'agit d'une vraie adaptation du film, une adaptation pour la scène, il n'y aura pas d'extrait du film, j'ai fait vraiment une autre version, mais tout le monde trouvera ce qu'ils attendent tout en étant surpris, et c'est pour le mois de février aux Folies Bergères.
2017.
Voilà.
Alors dites donc, c'est une info. Donc, voilà, les choristes aux Folies Bergères.
Voilà, c'est ça. Et donc, mais ce sera une vraie véritable adaptation. Voilà, ça sera, je prends beaucoup de plaisir 12 ans après, parce que c'est 12 ans après.
Une dernière pause et on vous donne la réponse à la question que vous posez Stéphane pour gagner des places pour découvrir L'Outsider, le nouveau film de Christophe Baratier. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
L'Outsider est-il votre troisième ou votre quatrième film? C'est mieux si j'arrive à le prononcer, Christophe Baratier.
Quatrième.
Et ben voilà, ouais. Ceux qui ont correctement répondu au 32-10 auront donc des places pour aller le découvrir mercredi en salle. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette aventure finalement assez folle qui était la préparation de ce film et son tournage.
Ça m'a fait plaisir, je suis toujours très bien reçu chez vous.
Passez une excellente journée. Merci à toute l'équipe. Demain, je vous signale que nous serons, notamment, vous pourrez entendre dans Laissez-vous tenter les confidences de Céline Dion à quelques jours de sa série de concerts à Paris. Bonjour, cher camarade. Il boude ou pas il boude?
Mais parce non, qu'on pourquoi
Julien.
Ah non, mais je ne boude pas, moi.
Non, je suis désolé, je rends l'antenne avec 2 minutes de retard. Mais je suis capable aussi de faire amende honorable.
Mais c'est Berne qui va se prendre 3-4 minutes de retard.
Ah, c'est bon! Bien mode, fait, allez-y à fond dans Berne.
Alors attendez, oh, hein, on est en famille ici.
18h-22h.
Allez, ça marche. Bonne matinée.
Salut Julien, bonne journée.
Vous écoutez RTL.